C'est parti. Ça va bien?
Oui.
On est content d'être ici. Ça fait déjà 2 mois, je pense, qu'on n'était pas de vous voir. On est venu voir s'il faisait chaud en Ontario qu'au Québec. Ça a l'air que oui. Ce matin, on va continuer la série que j'ai commencée il y a quelques mois sur les miracles de Jésus. Si vous vous rappelez, on a vu le premier miracle, du second, avec le lépreux. Et ce matin, on va continuer dans cette série-là. J'aimerais qu'on tourne dans Luc, chapitre 5, s'il vous plaît. Jésus a fait un premier miracle, et tout de suite après, l'apôtre Luc continue avec un deuxième miracle. À partir du verset 16. Luc nous dit ceci. Et lui, en parlant de Jésus, il se retirait dans les déserts et il priait. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant un homme sur un lit qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui prend faire des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche? » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva à leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché et il s'en allait dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étrange. Un deuxième miracle. Et j'aimerais commencer par expliquer le contexte où ce miracle-là va se passer. Premièrement, on nous dit que, au verset 15, Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Jésus devenait de plus en plus populaire. Mais Jésus, au lieu de prendre cette popularité-là pour lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait. Voyez-vous, Jésus, là, il ne cherchait pas la popularité. Il cherchait la face de son Père. Les gens voulaient le faire, ouais. Et Jésus dit non. Prenez du temps avec son Père. Jésus est venu pour une chose, pas pour faire des miracles. Oui, il en a fait des miracles. Mais c'est important de se rappeler qu'à travers qu'on possède des miracles, Jésus, ce n'est pas un faiseur de miracles. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Jésus est venu pour faire connaître son Père. Dans Luc 4, verset 12, Jésus a dit, « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Je suis devenu proclamer la délivrance aux captifs, publier une année de grâce. Je suis venu faire connaître mon Père. » Donc, c'est important, quand on regarde les miracles, de s'assurer, de ne pas penser que Jésus, c'est juste un faiseur de miracles. Pourquoi Jésus a fait des miracles? Pour nous démontrer qui il était. Christ, le Messie premier. Et les miracles vont nous montrer 2 choses. La puissance de Christ et son autorité. Et on va le voir dans le message ce matin. la puissance de Christ et son autorité. Quand Christ dit au paralytique, ben si ça te tente, tu peux te lever. Il dit non, lève-toi, prends ton lit, puis sors d'ici. Christ a l'autorité. Et il est le seul qui a l'autorité de pardonner les péchés. Une autre chose qu'on ne voit pas dans le texte, mais que Marc nous dit, c'est que tout ça se passe à Capernaüm. Et Capernaüm, c'est important parce que c'était la ville où Jésus vivait durant tout son ministère en Galilée. Donc, Jésus est à Capernaüm. Première chose. Deuxième chose, on nous dit qu'il y avait une foule là. Et qui était cette foule? Les pharisiens et les scribes. Comme mon épouse le dirait, c'était les super spirituels, les religieux du temps. C'est eux qui étaient allés autour de Jésus. Ils sont venus de partout, de la Galilée, même jusqu'à Jérusalem, pour voir ce faiseur de miracles. C'est qui que ce gars-là que tout le monde parle, qui fait des miracles, qui parle de Dieu? C'est ça, dans ce contexte-là, que Jésus va faire le miracle. Et c'est important de le comprendre, parce qu'on va voir tantôt la réaction de ces fameux pharisiens et scribes-là. On pensait, on dirait, nous autres, si on voyait un miracle, là, on tomberait au pied de Jésus, puis on croirait dans lui, c'est sûr. Hein, on pensait des fois, les gens, si Jésus venait ici et faisait un miracle, là, la population d'Osbury se convertirait. Mais ce miracle-là nous prouve le contraire. On va voir la réaction de ces hommes-là quand Jésus a fait un miracle sous leurs yeux. Voyez-vous, ces gens-là, c'est la première fois que Luc en parle, les pharisiens et les sadducéens. De 1 jusqu'à 5, il n'en parle pas. Première fois qu'il en parle. La première fois qu'il en parle, ça va tourner au vinaigre. Et c'est à partir de là que ces gens-là vont décider de dire, faut qu'on se débarrasse de Jésus. Et durant tout l'évangile de Luc, on va voir ces gens-là qui vont venir mettre des bâtons dans les roues du Seigneur Jésus, jusqu'au point de l'emmener et de le faire crucifier. Et c'est là que ça commence. Après ce miracle-là. Ça, c'est le contexte autour. La première évidence que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est au verset 18. Notre fameux monsieur n'est pas capable de se rendre à Jésus par lui-même. C'est un paralytique. Luc ne dit pas pourquoi il est paralytique, ni depuis quand. C'est-tu depuis son enfance? Y a-tu eu un accident? Y a-tu quelque chose qui a tombé sur lui? Luc ne nous dit pas. Mais Luc nous dit une chose, c'est un paralytique, il n'est pas capable de se rendre vers Jésus de lui-même. Il faut que quelqu'un l'amène à Jésus. Et ici, c'est une belle image de l'incapacité de l'homme d'aller vers Dieu de lui-même. Exactement comme ce paralytique-là. L'homme ne peut pas aller lui-même. Il faut qu'il soit attiré. Et on va voir tantôt, pas juste attiré. Il faut que des gens l'amènent à Jésus. Parce que de lui-même, l'homme naturel, chacun de nous, on ne peut pas aller vers Dieu de lui-même. On ne cherche pas Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 nous dit ceci. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Parlez aux gens de Dieu. Les gens vont vous dire, « T'es-tu malade? » Voyons donc, c'est une vieille histoire, ça. Ils ne peuvent les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et comme ce paralytique, on a besoin d'aide. On n'est pas capable d'aller vers Dieu. Mais heureusement, Dieu a mis des gens pour nous attirer à lui. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que c'était des hommes convaincus. Hein? Vous d'accord? Quand on lit l'histoire, là, les gars, là, ils étaient prêts à défoncer des portes pour mettre leur ami devant Jésus. Ils étaient prêts à défoncer n'importe quoi. Ôtez-vous, on arrive. Ils étaient convaincus que le seul qui pouvait faire quelque chose pour leur ami, c'est Jésus. Et ils se sont dit, si on peut juste le mettre devant Jésus, on sait que Jésus va pouvoir faire quelque chose pour lui. Ils étaient des hommes convaincus. J'aimerais ça qu'on se place sur la scène. Parce qu'on ne vivait pas en Palestine au temps de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes-là arrivent, quatre hommes, portent leur ami, et Matthieu et Luc nous disent qu'il y a quatre hommes. Luc ne nous dit pas, mais Matthieu et Marc nous disent. Il y a quatre hommes qui sont là ensemble. Et là, on se place là. Ils arrivent devant la porte. Il y a plein de monde, Jésus, dans la maison. Ils ne sont pas capables de rentrer. Fait qu'ils ont tourné le bord, ils sont allés chez eux. Non! Ils se sont dit, on va mettre notre ami devant Jésus, no matter what. Mais il faut comprendre que dans le temps, les maisons, il y avait toute une échelle sur le côté. On pouvait monter sur le toit parce qu'il faisait frais le soir, il y avait du bon vent. Fait que les gens allaient sortir dehors, montaient vers cette petite échelle-là, ils allaient sur le toit de la maison pour avoir une fraîcheur. Et je peux m'imaginer les quatre amis avec leur ami dans le brancard puis à essayer de monter par l'échelle pour se rendre sur ce fameux toit-là. Finalement, ils se rendent. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de fenêtre sur le toit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à démancher les briques, commencent à enlever la paille. Et je peux m'imaginer les gens à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? La poussière commence à tomber. Là, Jésus est là, il est en train d'enseigner. Là. Mais les amis, là, ça ne les dérange pas. Ils sont prêts à déranger Jésus et tout le monde autour parce qu'ils veulent mettre leur ami devant Jésus. Ils savent que c'est le seul qui peut faire quelque chose pour eux autres. Et là, finalement, oh, on voit un petit peu de lumière. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Notre ami qui descend direct devant Jésus. Hey, c'est un gars qui était vraiment convaincu. D'accord? Déranger le Seigneur, démancher le poids, ça va coûter de l'argent, on s'en fout. Prête à briser des toits, ça va nous coûter de l'argent, mais ça ne nous dérange pas, on va mettre notre ami devant Jésus. Les hommes qui étaient convaincus. Et j'ai trouvé dans un des commentaires, un des commentateurs a donné un nom à nos quatre amis qui décrit leur caractère. Regardez comment il les appelait. Le premier qui portait le brancard s'appelle Sympathique. Le deuxième s'appelle Entraide. Le troisième s'appelle Ingénieux. Et le quatrième s'appelle Persévérant. Ça prend une ingéniosité pour être persévérant. Puis il faut que tu aimes ton ami. Il faut que tu sois prêt à vouloir l'aider pour monter sur un toit, démancher le toit, déranger tout le monde, incluant Jésus, pour le mettre juste devant Jésus. Convaincu. Et je dirais ici, premièrement, dans ça, il y a deux belles leçons. La première leçon, c'est au niveau de l'évangélisation. On est tous appelés à être des porteurs de brancard. Moi, il y a des gens qui m'ont porté à Jésus. Mon oncle, quand j'avais 16 ans, est venu me donner une Bible, m'a parlé de Jésus. Mon frère m'a parlé de Jésus. Denis a prié pour moi. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, là, il veut qu'on soit des porteurs de brancard, qu'on amène les gens vers Jésus. On ne peut pas rien faire pour les gens. Mais si on les amène à Jésus, lui, il peut faire quelque chose pour eux autres, par exemple. Lui, il peut faire quelque chose pour eux autres. Nous autres, on ne peut pas. On n'a pas le pouvoir de sauver les gens. La seule chose qu'on peut faire, c'est les emmener à Jésus. Et comme ces amis-là étaient convaincus que si on les amène à Jésus, Jésus peut faire quelque chose pour eux autres. Ils étaient convaincus. Nos quatre amis étaient prêts à aller au bout. Ça ne les dérangeait pas combien d'obstacles. Et combien c'était pas leur coûté. Et Paul a fait exactement la même chose. Paul, c'était vraiment un porteur de brancard pour amener les gens vers Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 8, qu'est-ce que ça lui a coûté pour amener les gens à Jésus? Bien plus que démancher un toit. Écoutez ce que Paul a dû subir pour attirer, amener les gens vers Jésus. Il dit, j'ai été fouetté 5 fois. J'ai été battu à coups de bâton 3 fois. J'ai été lapidé. J'ai fait un naufrage 3 fois. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai été en péril sur les fleuves, dans la part des brigands, dans les déserts, sur la mort, parmi les faux frères. J'ai été exposé à des nuits sans dormir, à la faim, à la soif, au jeûne multiplié, au froid et à la nudité. Et en plus, l'apôtre Paul est mort en prison, décapité. Est-ce que l'apôtre Paul a été un porteur de brancard? Paul savait, si j'amène les gens à Jésus, Jésus, c'est le seul qui peut faire quelque chose pour eux. Parce que le seul, comme on va le voir tantôt, qui peut enlever les péchés, c'est Christ. Et on est appelé des porteurs de brancard, comme ces amis-là. Emmener les gens à Jésus, sachant qu'on ne peut pas rien faire, mais on peut les emmener à Jésus, comme nos amis, étant convaincus. Première chose. Mais la deuxième chose, après l'évangélisation, c'est les uns les autres. On a besoin de se porter les uns les autres. Ça vous arrive-tu des fois que vos fardeaux sont tellement pesants que vous n'êtes pas capable de les porter tout seul? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois que je ne suis même pas capable de prier. Je ne suis même pas capable de lire ma Bible parce que je suis trop découragé. Mais on a les uns les autres. Exactement comme nos amis. On est appelés à se porter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, se faire du bien les uns les autres. Exactement comme nos amis. Ils étaient convaincus. Est-ce qu'on est convaincus qu'on doit s'aider les uns les autres, qu'on doit se porter les uns les autres? Je ne sais pas si vous tenez Don Carson. Son père. J'ai lu cette biographie. Et M. Carson, qui était un homme, je l'ai connu, un homme absolument exceptionnel. M. Carson, il dit des fois, là, je rentrais dans ma chambre et je priais. Là, puis c'était comme si le toit était en métal. Je priais, puis mes prières tombaient à terre. C'est une réalité dans nos vies. Et moi, je suis tellement content. Combien de fois j'arrive à l'église de Buckingham, puis il y a une madame qui vient me voir, puis elle me dit, Daniel, je prie pour toi. Fais du bien, ça. Je prie pour toi, Daniel. Ou je mets quelqu'un qui met la main sur ton épaule et qui te dit, je t'aime, mon frère, mon sœur. Je sais que c'est pas facile. Je prie pour toi. Ça peut faire toute la différence. Comme nos amis, qu'on peut supporter nos brancards les uns les autres, on a besoin de ça. J'ai été surpris de trouver une liste de 25 les uns les autres dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est important les uns les autres? 25 fois! Laissez-moi vous en donner quelques exemples. Portez les fardeaux les uns les autres. Portez les brancards les uns les autres. C'est un commandement que Dieu nous donne. Galates 6, 2. Soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, 32. Priez les uns pour les autres. Jacques 5, 16. Ayez soin les uns les autres, 1 Corinthiens 12. Instruisez-vous les uns les autres, Colossiens 3. Exhortez-vous les uns les autres, 1 Thessaloniciens 5. Avertissez-vous les uns les autres. Mais savez-vous, il y en a un qui ne dit pas « battez-vous les uns les autres » puis « déchirez-vous les uns les autres ». C'est pas là. Portez-vous les uns les autres, encouragez-vous. Faites comme nos amis. Soyez sympathiques. Ayez de l'entraide, soyez ingénieux et persévérants pour faire le bien, pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres. La vie chrétienne est dure. Si quelqu'un qui dit que la vie chrétienne est plate, là, je ne sais pas dans quel monde il vit. Notre ennemi veut nous détruire. Et on a besoin de se porter les uns les autres pour se rendre jusqu'à l'avant. On est en voyage. On est juste en voyage. On a une place, on s'en va à la maison. Et en s'en allant, si on peut porter les fardeaux les uns les autres, qu'on se rende à la même place ensemble en même temps, amen. C'est ça le but. C'est de se rendre à la maison. Je sais pas si vous avez vu. Si vous voulez lire un bon livre, lisez Le Voyage du Pèlerin. Le pèlerin est parti tout seul puis a rencontré des amis en cours de route. Puis c'est pour ça qu'il a pu persévérer. Oui, il a sorti de la route des fois. Mais Dieu l'a ramené dans la route. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti tout seul, mais Dieu a mis des gens avec lui. Pour l'aider, comme nos amis. On a besoin les uns des autres. Donc, la première évidence de ce miracle-là, c'est que notre ami n'est pas capable de se rendre de lui-même devant Jésus. La deuxième évidence, c'est que Christ voit ce qui est invisible. Luc nous démontre clairement que Christ est Dieu. Comment? Christ peut voir ce que nous autres, on ne voit pas. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Jésus, voyant leur foi. Jésus a vu leur foi. On ne peut pas voir la foi des gens. On peut voir le cœur des gens. On peut voir la persévérance des gens. On peut voir comment les gens aiment Dieu. Mais on ne peut pas voir vraiment la foi des gens. Est-ce que j'ai une foi sincère? Vous ne pouvez pas le voir. Mais Christ peut le voir. Christ a vu, premièrement, leur foi. Mais il faut faire attention. Parce que leur foi les a seulement emmenés jusqu'à Jésus. Parce qu'on pourrait penser, quand on lit le verset, voyant leur foi, Jésus dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Fait qu'il a vu la foi des quatre amis, puis il a dit à Jésus, tes péchés sont pardonnés. Non, ça ne marche pas comme ça. Jésus ne pardonne pas les péchés sur la foi des autres. C'est une foi personnelle. Fait que quand il a vu leur foi, il a vu la foi du paralytique aussi. Leur foi a fait quoi? Leur foi les a emmenés jusqu'à Jésus. Leur foi était convaincue que si on l'amène à Jésus, Jésus va faire quelque chose avec. Je le dis souvent, hein? Mais j'espère que quand vous allez retourner chez vous, après-midi, vous allez vous rappeler qu'il y a juste Jésus qui peut faire quelque chose pour nous. Personne d'autre. Juste le Seigneur Jésus. La foi ne se transmet pas dans l'ADN. La foi des amis ont emmené Jésus. Mais quand Jésus disait, ta foi, la foi, j'ai vu votre foi et je te pardonne, il a vu la foi du paralytique aussi. C'est sûr et certain. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas si ton père, ta mère, tes frères, tes amis, ceux qui t'emmènent à l'église. Ça ne marche pas comme ça. La deuxième chose que Jésus a vu, il n'a pas vu juste leur foi. Regardez au verset 22. Et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? » Jésus aussi voit nos cœurs. Une autre chose qu'on ne peut pas voir. Je ne peux pas voir votre cœur. C'est facile, je pourrais dire, se cacher. Mais pas dans le Seigneur. Et on espérait que nos amis qui sont là, nos fameux pharisiens, ils se sont dit, « Wow! Hey, ils voient la foi de ces gens-là. Ils voient nos cœurs. » Ils ont tombé à genoux. Puis ils ont dit, « Merci, Seigneur! » C'est ça qu'ils ont fait? Non, ils ont dit, « Tu blasphèmes! » Tu blasphèmes! Ils étaient complètement aveugles. Complètement aveugles. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pour dire qu'on ne peut pas voir ni la foi, ni le cœur des gens. Des fois, on peut juger les gens sans savoir. C'est dangereux. Les gens, dans le temps de Jésus, qui regardaient les pharisiens et disaient « Hey, wow, lui, il va à l'église à tous les jours, connaît sa Bible sur le bout de ses doigts, il donne la dîme, même, écoute, même la dîme des grenouilles. » Pourtant, Jésus leur a dit quoi? Race de vipère. Votre père, c'est le diable. Moi, si j'aurais été là, j'aurais dit, waouh, ça, c'est des hommes. Ça, c'est des hommes de Dieu. Pourquoi? Je ne peux pas voir le cœur des gens. Je ne peux pas voir la foi des gens. Christ est le seul. Il faut faire attention quand on juge les gens, parce qu'on peut les juger mal. 1 Samuel 16:7 nous dit ceci. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Donc, premièrement, le miracle nous dit on ne peut pas venir à nous, à Christ de nous-mêmes. On a besoin d'être attiré. Soyons de ceux qui amènent les gens à Christ. Et portons-nous les uns les autres. Ensuite, Christ est celui qui voit tout. Il voit nos cœurs, il voit leur foi. La troisième évidence de ça, c'est qu'une confrontation va s'amorcer entre les pharisiens et Jésus. Regardez le verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire,
Wow! Quel homme exceptionnel! Je veux le connaître. Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul? Il avait raison. Il avait la bonne théologie. Ils ne se sont pas trompés. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne l'ont pas vu. Il avait raison quand ils ont dit que Jésus est le seul. Pas Jésus, que Dieu est le seul qui peut pardonner les péchés. David, dans le psaume 31, il dit, « C'est contre toi seul que j'ai péché. » David savait que le seul qui pouvait pardonner ses péchés, c'était Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils décident de faire? C'est un blasphémateur. Et voyez-vous, on a deux choix ce matin. Soit Jésus, c'est un blasphémateur et un menteur, ou soit Jésus est Dieu. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas un ou l'autre. Pour chacun de nous ce matin, qui est Christ pour toi? Un faiseur de miracles? Une roue de secours? Quelqu'un qui peut t'aider? Où est-ce qu'il est Dieu? Le Dieu de l'univers. Ils ont dit, le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Vous avez raison, mes amis. Et c'est moi qui ai vous autres, vous ne voyez pas, vous avez les yeux bouchés d'une tête. Le problème était avec leurs yeux. Voyez-vous, il est appris dans les griffes du diable. 2 Corinthiens 4 nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, elle est pour ceux qui périssent. Pourquoi? Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est exactement ce qui se passait dans le cœur des pharisiens. Ils n'ont pas vu qui était devant eux autres. Le Dieu était voilé. Mais voyez-vous, c'est ce qui fait toute la différence entre la religion et une relation avec Christ. Si Christ, pour toi, c'est juste un faiseur de miracles, un bon bonhomme, tu ne connais pas le bon Jésus. Le Jésus de la Bible, c'est Dieu. Et rien de moi. Le seul qui a l'autorité et le pouvoir de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Et Matthieu ajoute un détail que Luc ne donne pas. Parce que Matthieu va dire, Jésus, quand le paralytique est arrivé, il a dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelle compassion de Seigneur Jésus. « Prends courage, t'es pas venu pour rien. Tes amis t'ont venu jusqu'ici, tu n'es pas venu pour rien. On va faire quelque chose pour toi. » Plus que tu penses. Plus même que t'espères. Un autre détail qui est intéressant, c'est que Christ s'attaque à ce qui est le plus dangereux dans l'homme, mais qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que Jésus a guéri en premier? Ses péchés. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés, après ça, lève-toi et marche. Voyez-vous, Jésus, là, ce qu'il veut guérir, c'est pas nos bobos, c'est nos cœurs. Et c'est à ça que Jésus s'est attaché premier. Au cœur. Tes péchés sont pardonnés. Après ça, lève-toi et marche. Et c'est important, ça. Christ s'est attaqué à ce qui affecte l'âme, parce que l'âme est pour l'éternité. Le corps, il va rester ça. Hier, j'ai eu le privilège d'aller faire une mise en terre à l'église. Et ce qu'il y avait, c'était juste un tas de poussière. Mais il disait à la famille, un jour de cette tombe-là, un corps glorifié va sortir. Mais l'âme est possible. L'âme est avec le Seigneur. L'âme est avec Jésus. Pourquoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit de quiconque est pendu au bois. » Christ s'est attaqué à celle de plus dangereux dans l'homme que personne ne voyait, sauf Christ. John MacArthur a dit ceci, ça c'est pour toi, Guy.
Le pardon est le plus grand besoin de l'humanité et en même temps le cadeau le plus important de la part de Dieu. C'est aussi la seule source de bénédiction dans cette vie sur la terre et qui va continuer jusque dans l'éternité. On peut recevoir beaucoup de bénédictions, mais c'est la seule bénédiction qu'on reçoit ici qui va continuer jusque dans l'éternité. Et j'espère ce matin que chacun de vous, vous connaissez Jésus. Vous avez reconnu que vous êtes des pécheurs, que vous avez besoin. Jésus est le seul qui peut dire « Tes péchés sont pardonnés. » Il n'y a personne d'autre, juste le Seigneur Jésus. On peut crier au Seigneur pour plein de choses. Nos problèmes financiers, nos enfants rebelles, nos problèmes de couple. C'est tout bien et Jésus le sait ça. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est crier au Seigneur Jésus « Pardonne-moi mes péchés. » Parce que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que Jésus a pardonné les péchés de cet homme-là avant d'aller le sortir de sa misère, couché dans son lit. Parce que Jésus savait que le péché est bien plus dangereux que la maladie. Et en plus, allez-vous regarder, le Seigneur Jésus ne dit pas « Mon ami, la moitié de tes péchés sont pardonnés, le trois quarts, tes péchés sont pardonnés. Présent, passé, futur. Quand Christ pardonne, il pardonne tout. Son sang est efficace pour enlever tous les péchés de ceux qui mettent leur confiance en Christ. Pas la moitié, pas le trois quarts. Et je peux vous garantir ici que c'est des gens ce matin qui ne connaissent pas Jésus. Vous n'avez pas des chaînes trop grosses que Christ ne peut pas enlever. Le sang de Christ est efficace pour enlever tous les péchés de tous ceux qui se confient en lui. On va le voir, Dieu voulant, dans un prochain miracle, avec cet homme qui était pris de milliers de démons. Et Jésus a juste débarqué du bateau, il n'a rien dit. Et les démons sont venus se jeter à ses pieds. Christ est le seul. Il n'y a pas de chaîne trop grosse que Christ ne peut pas briser. Christ dit rien qu'un péché qui ne sera pas pardonné. Lequel? Péché contre le Saint-Esprit. Ne pas reconnaître Christ comme sauveur. C'est la seule chose que Christ ne pardonnera pas à la fin des temps. Tous ceux qui vont refuser de mettre leur confiance en Christ vont être jugés sur le fait vous avez péché. Vous avez refusé la grâce de Dieu. Là, Jésus va poser une question provocante. Regardez au verset 23, qu'est-ce qu'il pose comme question. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Si je vous posais la question, lequel est le plus facile? D'après vous, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Quel est le plus facile selon vous? Pardon?
Lève-toi.
Lève-toi et marche? Pourquoi? Oui. Mais parce que n'importe qui peut dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Rappelez-vous quand vous alliez à confesse. Vous rentriez dans la petite boîte, qu'est-ce que le curé vous disait? Tes péchés sont. Je tape sous tes péchés. Comment on fait pour savoir si c'est vrai ou non? On ne sait pas. C'est facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Mais c'est bien plus dur à dire à quelqu'un, par exemple, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et puis marche. Et j'ai bien donné à l'église qui a 90 ans, que le Seigneur a sauvé, il n'y a pas très longtemps, elle s'est fait baptiser il y a 6 mois. 90 ans! Et je parlais avec elle de ça, puis elle disait, « Oui, je m'en rappelle, la boîte a menti. » La boîte a menti. Elle a confesse, tu sais, comme elle appelait ça comme ça, la boîte a menti. Ben, tu sais, vrai, du curé me disait, je t'absous. C'est une manière de savoir si c'est vrai ou non. Et Jésus dit, « Afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir et j'ai l'autorité, lève-toi, prends ton lit, va-t'en chez vous. » Christ a prouvé. Il n'a pas juste dit qu'il avait la capacité de pardonner les péchés. Il l'a prouvé. Il l'a remontré. Et voyez-vous ce qui est spécial? c'est que ça nous dit, à l'instant même, il se leva. On a un physiothérapeute à l'église. J'ai parlé avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui passe 2 mois, 3 mois, 6 mois dans un lit? Qu'est-ce qui arrive avec ses muscles? Ses muscles sont atrophiés. Cet homme-là est paralytique, on ne sait pas depuis quand. Jésus lui dit, lève-toi, va chez le physiothérapeute, apprends à marcher, puis tu reviendras dans 3 mois. C'est ça que le Seigneur lui dit? Non, lève-toi et puis marche. Suite. Jésus l'a guéri complètement. Il a même donné la capacité à cet homme-là qui n'a peut-être même jamais appris à marcher. Jésus dit, lève-toi et marche. Encore une image du salut. Quand Jésus dit, là, je te sauve, là, c'est pas un processus. Vous en rappelez quand on est lu sur le fidèle, peut-être quand j'ai dit, on n'est pas, on ne devient pas des chrétiens. On est déclaré sauvé, on est déclaré juste. T'es coupable, t'es juste. Et c'est la même chose avec cet homme. Jésus lui dit, et à l'instant même, il se leva, prit son lit et s'en alla chez eux. C'est ça la beauté du salut. Quand Christ te déclare juste, t'es juste tout de suite. T'as pas besoin d'ajouter rien, t'as pas besoin de prouver rien, t'as juste besoin de mettre ta foi en Christ et rien d'autre. À l'instant même, il se leva. Savez-vous ce que ça me démontre aussi? Ça me démontre une transformation totale. Notre lépreux, là, il était rempli de lait et de la couverture aux pieds, vous en rappelez? Après, il n'y avait plus rien. Ce paralytique-là, il ne marchait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ressort, il retourne chez eux en dansant. Des hommes transformés. Et c'est ça que ça fait, l'Évangile dans nos vies. Si vous dites que vous connaissez le Seigneur Jésus, là, je ne veux pas décourager personne, mais si vous mangez comme avant, parlez comme avant, pensez comme avant, vous avez les mêmes idées qu'avant, ce n'est pas Jésus de la Bible que vous connaissez. C'est un autre Jésus. Parce que quand Jésus rentre dans nos vies, il nous transforme. Il nous change. C'est la même chose. On va voir à travers de chacun des miracles, et chacune des personnes qui ont rencontré Jésus sont parties différentes. C'est une réalité. Trop de gens, je pense, dans nos églises, des fois, sont là, tu les regardes, ça fait 10 ans, puis ils viennent à l'église le dimanche, puis après. Jésus, il dit, quand tu me rencontres, là, t'es à terre, tu sors en dansant. C'est une réalité. Ça veut dire qu'on devient parfait? Ben non! On est tous des pécheurs. On va tous rester des pécheurs. On va tous se battre avec les péchés jusqu'à la fin des temps. Mais une chose est sûre, on est changé, transformé. Ça, c'est une réalité. Et c'est ça que Jésus nous montre dans ce miracle-là. L'homme ne marchait pas, il repart, il est changé, il est transformé. C'est pas le même gars. Pensez à Paul. Saul de Tarse, un tueur de chrétiens, un apôtre. Pierre, dans un bateau, un tof, devient l'apôtre Pierre. Ils ont rencontré Jésus, ils ont été transformés. Est-ce que Pierre est devenu un homme parfait? Non. Lisez son histoire, vous la voyez, il est loin d'être parfait. Mais il t'a changé, il t'a différent, il t'a transformé. Et c'est ça que l'Évangile fait dans nos vies. C'est ça qu'on fait quand on rencontre Jésus. C'est un miracle, le salut. Le salut, c'est un miracle. Parce que personne ne peut venir à Jésus par lui-même. Et personne ne peut se transformer de lui-même. C'est un miracle. Exactement comme le miracle qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Soli Deo Gloria. Ça veut dire quoi? À Dieu seul soit la gloire. Et c'est exactement comme ça, Luc finit le miracle. À l'instant, il se leva en présence, prit son lit où il était couché, et s'alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et verset 26, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Et c'est ça qu'on est appelé à faire, rendre gloire à Dieu. On était à tous des lépreux. On était à tous des paralytiques. On était à tous des gens qui étaient captifs du malin. On était à tous des gens qui étaient à mort. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'as vu dans ma folie, tu es venu me chercher. Grande gloire à Dieu. Psaume 103, 1-4, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le lire. Psaume 103, pour ceux qui prennent les notes, nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Pas le trois quarts, toutes. Qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te donne et te couronne de bonté et de miséricorde. On est appelé à louer Dieu. Et j'aimerais terminer, Jean-Vous descend, avec une petite histoire que j'ai entendue, que j'ai trouvée pas mal bonne. Un jour, une petite fille s'en va à l'école du dimanche. Et pendant que le professeur parle, elle comprend qu'elle a besoin d'être sauvée. Là, Jésus la sauve. Et là, elle s'en va chez eux. Elle va voir son grand-père qui est assis dans sa chaise berçante. Elle a dit, grand-père, 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 j'ai accepté Jésus aujourd'hui. J'ai compris là, que Jésus est mourir pour mes péchés. Grand-père regarde et dit, hey, c'est dimanche, là, relax. Là. T'as pas honte de parler comme ça le jour du Seigneur? Là, là la petite fille, elle s'en va, toute découragée. Elle marche dans un champ. Elle voit une vieille âme, les oreilles baissées, toute découragée. Elle pomme la vieille âme par le cou et elle dit, « C'est-tu à qui je te regarde? » Elle dit, « Je pense que tu pratiques la même religion que mon grand-père. » La joie. On ait la joie, qu'on soit reconnaissant de ce que Christ a fait pour nous. Cet homme-là, il est parti glorifiant Dieu. Et il nous demande la même chose. Qu'on soit reconnaissant de ce que Christ a fait pour nous. Je te rends gloire, Seigneur, que tu as toute autorité, que tu as tout pouvoir, que tu as payé ma dette, que la paix est faite avec Dieu. Je suis un ennemi, je suis en paix avec Dieu aujourd'hui. À cause de moi? Non. À cause de Christ, à cause de sa mort sur la croix. Il a payé ma dette. Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Juste terminer de ma prière. Père, combien on veut te dire merci. Merci parce que le Seigneur Jésus est Dieu. Le seul qui pouvait dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Le seul qui avait le pouvoir et l'autorité. Et Seigneur Jésus, tu as ce même pouvoir ce matin. De dire, s'il y en a qui ne te connaissent pas, se tourne vers toi, tu as l'autorité de leur dire, tes péchés sont pardonnés. Merci aussi parce que tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Je sais que certainement qu'il y en a qui souffrent. Seigneur, on peut aller à toi. Tu n'es pas aveugle. Tu vois. Tu as vu le besoin de cet homme. Et tu lui as dit, mon enfant, mon enfant, les péchés sont pardonnés. Seigneur, merci pour, encore une fois, la grâce de pouvoir s'arrêter, regarder ces miracles, Seigneur, apprendre à voir comme était un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui veut faire du bien à ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, merci. À toi seule la gloire. Merci de nous avoir racheter un si grand prix. Avoir bu cette coupe qui contenait la colère du Père. Merci parce qu'à la fin des temps, Seigneur, je vais me présenter devant toi et je n'aurai pas payé pour mes péchés. Parce que tu as dit tout est accompli. À toi seule la gloire, Seigneur Jésus.